ses parents. Sa vie est un simulacre qui est suivi par des millions de spectateurs. Et puis dans le film, l'apparition soudaine de son père qui était censé être mort dans une tempête amène Truman à remettre en doute les évidences. Et peu à peu, les coutures du spectacle vont craquer. Hein. Il capte les fréquences radio de l'équipe de tournage, il aperçoit l'envers du décor et il va réussir à échapper aux surveillances des caméras et va se lancer en mer. Christophe va le retrouver et va déclencher un violent orage et Truman va manquer de périr noyé. Le réalisateur l'épargne in extremis et le fugitif il reprend la navigation donc, et jusqu'aux limites de son monde. Et il découvre une porte et un dernier échange avec Christophe qui lui promet, s'il reste à Seehaven, une existence dénuée de peur. Mais Truman choisit de quitter la scène et l'émission s'achève sous les applaudissements. Voilà, vous avez toute l'histoire, c'était simplement pour vous rafraîchir la mémoire. Je vais peut-être pas vous passer la bande-annonce. En plus, elle n'est pas top. J'avais la bande-annonce en version originale non sous-titrée, qui est un peu datée, tout ça. Donc, je vous épargne du coup la bande-annonce si donc, la plupart d'entre vous connaissent le film. On va passer tout de suite. À l'équipe d'abord, alors le réalisateur, Peter Weir, réalisateur australien donc, il naît à Sydney en 1944, il démarre dans les années 60 d'abord à la télévision, il rejoint ensuite un collectif de jeunes cinéastes australiens qui vont fonder en 1970 la Sydney Filmmakers Cooperative et qui relance une vraie dynamique dans le cinéma australien de l'époque. C'est pour eux la nouvelle vague australienne. On va l'appeler la pause exploitation. Pause, c'est une espèce de diminutif en anglais pour destiner citer l'Australie et exploitation parce que ça va être des films à petit budget qui ont vraiment beaucoup sur du cinéma de genre notamment. Notamment un film comme Mad Max, c'est un film d'exploitation. Il y en a d'autres, Waking Fright, qui va devenir un film culte. Ouais, c'est une période assez intéressante. Il y a un documentaire qui existe sur la exploitation. Je vous conseille de le visionner. J'ai plus le titre en tête, mais il se trouve assez facilement. Donc Peter Weir, lui, c'est un peu à touche à tout. Il va s'intéresser à plusieurs genres. La comédie noire avec les voitures qui ont mangé Paris en 74. Le mystère romantique avec Picnic à Hanging Rock en 75, la femme métaphysique aussi avec La dernière vague en 77, et puis c'est grâce à une coproduction entre l'Australie et les États-Unis pour son film L'année de tous les dangers en 82 avec Mel Gibson qui va entrer dans le système des studios hollywoodiens. Il va signer des films qui auront de grands succès. Hein, avant The Truman Show, il signe deux films avec Harrison Ford, Witness en 85 et The Mosquito Coast en 86. The Mosquito Coast qui d'ailleurs a pas mal de d'écho et de romans, on n'aura pas le temps d'en parler, mais qui a pas mal d'écho avec l'histoire de The Truman Show aussi d'ailleurs. Deux très beaux films. Et puis en 89, il signe son chef-d'œuvre, son film culte avec Le Cercle des Poètes Disparus, avec Robin Williams et Matt Damon. Et puis The Truman Show aussi deviendra un film culte, peut-être un peu moins que Le Cercle des Poètes Disparus, mais enfin, en tout cas, va marquer aussi son époque. Son dernier film date de 2010, donc Les Chemins de la Liberté, et il a annoncé tout récemment sa retraite, s'estimant trop fatigué pour faire du cinéma. Et cette année, en début d'année, il a reçu le Lion d'Or à la Mostra de Venise pour l'ensemble de sa carrière. Le film est écrit par un scénariste qui s'appelle Andrew Niccol, qui est célèbre notamment pour avoir écrit le scénario du film Bienvenue à Gattaca, un film de science-fiction qui avait beaucoup marché à l'époque. Il y a aussi un film qui s'appelle Simone, un film de science-fiction avec Al Pacino, ou encore le film Lord of War, avec Nicolas Cage. Au casting, on a donc notamment Ed Harris. Alors les deux autres comédiens, Laura Linney et Emmerich Noé, ils sont un peu moins connus et ils feront surtout carrière dans la télé, les séries télé, etc. Ils n'ont pas une grosse carrière, mais on a le comédien Ed Harris qui aura aussi une très belle, enfin qui est toujours en vie, il est toujours là, qui a une très belle carrière au cinéma et à la télévision. Et on va beaucoup parler de son personnage dans le film. Et puis, la vedette du film, Jim Carrey. Jim, là je lâche mes notes parce que je peux, alors je ne vais pas faire deux heures sur Jim Carrey, mais je pourrais. Parce que j'ai grandi avec les films de Jim Carrey. Et c'est aussi pour ça que je suis très content de vous parler de The Truman Show, parce que The Truman Show, j'ai dû le voir à peu près 40 fois en VHS quand je l'ai découvert. Et c'était déjà un choc à l'époque. Et là, je l'ai revu du coup plusieurs fois. Je l'ai vu deux, trois fois, dont une fois hier soir, parce que je l'ai présenté dans un cinéma aussi. C'est un film dont je me lasse pas et je trouve qu'on s'ennuie pas. Alors, c'est un film important, je vais essayer de faire rapide, sur Jim Carrey. C'est un film important dans sa carrière. Jim Carrey est canadien, il commence à avoir du succès aux États-Unis d'abord en faisant du stand-up et en participant aussi en faisant des sketchs à la télévision dans des émissions comme Saturday Night Live, etc. Et puis il va accéder au cinéma et il va devenir une immense vedette au début des années 90 avec des rôles dans des comédies comme Dumb and Dumber, Ace Ventura, The Mask. Qui sont des comédies complètement loufoques, complètement déjantées. Il va devenir, on l'appelle l'homme élastique, hein, parce qu'il a un visage capable de grimaces, etc. On va aussi beaucoup le comparer, dire que c'est le fils spirituel de Jerry Lewis. Je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, mais en tout cas, voilà, il est vraiment connu pour tout ça. En 96, il tourne Disjoncté, qui sera déjà... ses premiers films sont des cartons absolus. Il devient un des meilleurs acteurs, un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. Donc il a une cote de popularité énorme. En 96, il tourne Disjoncté, un film réalisé par le comédien Ben Stiller, et qui est une comédie aussi, une comédie où, pareil, il a toujours cet aspect très loufoque, et où il va commencer déjà à donner une nuance un peu sombre à son personnage. Et le film marchera un peu moins bien que tous ses films précédents, justement parce que les spectateurs vont trouver un peu étrange aussi l'aspect qu'il va donner à ce personnage. Et The Truman Show va être un premier tournant dans sa carrière, puisque ça va être vraiment la première fois où on va découvrir un Jim Carrey capable de d'émouvoir le public, capable de scènes dramatiques, et c'est vraiment... C'est à la fois un tournant pour lui et un tournant pour le spectateur, voilà, qui découvre cette nouvelle facette plus dramatique. Dans le film, on a toujours un ton sur la comédie, mais il y a aussi de très très belles scènes dramatiques. Ensuite, il prouvera encore plus tout ça en enchaînant. Alors, il enchaîne les grosses comédies et les films justement plus dramatiques. Un des plus beaux pour moi, c'est celui qui tourne l'année d'après, Man on the Moon de Milos Forman, qui est un biopic sur le comédien Andy Kaufman, un comédien américain, et il livre une prestation complètement incroyable qui va même... Il y a un documentaire Netflix que je vous conseille qui s'appelle Jim et Andy, qui raconte les coulisses du tournage de Man on the Moon et à quel point Jim Carrey était devenu le personnage, et ce qui a même créé des tensions et des choses, même dans la vie personnelle, des changements dans la vie personnelle de Jim Carrey. Puis d'autres films comme The Majestic, par exemple, qui est là vraiment un pur mélodrame à la Capra, qui est un très très beau film que je vous conseille. Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry aussi, qui est très très beau. Et puis voilà, aujourd'hui la carrière de Jim Carrey décline. C'est voulu, puisqu'il dit lui-même qu'il veut prendre sa retraite et s'éloigner des studios hollywoodiens. Étonnamment, en ce moment, il tombe dans la franchise Sonic, le film. Il a fait trois films, des très gros blockbusters, avec un rôle très très déjanté aussi. Alors que c'est plus vraiment ce dont à quoi il aspire, il le dit en interview. Je pense qu'à mon avis, il est fait plus pour payer ses impôts qu'autre chose. Aujourd'hui, il fait de la peinture, principalement. Et puis, il a vécu énormément de choses dans sa vie. Il a traversé des dépressions, des problèmes d'addiction aussi. Il a perdu... une de ses compagnes, il a été marié plusieurs fois, mais il a perdu une de ses compagnes d'un suicide assez récemment, il y a quelques années. Donc il est maintenant dans un chemin, en fait, on trouve plein d'interviews de Jim Carrey sur Internet, plein de vidéos sur lui où il parle énormément. Maintenant il est dans la spiritualité, beaucoup sur un tas de choses. Même. Il est vraiment maintenant dans les questions métaphysiques, spirituelles. Quand on écoute en interview, il va assez loin. Et c'est intéressant, et voilà, il a publié ses mémoires, ses fausses mémoires, ça s'appelle Mémoire floue, puisqu'à la fois il raconte réellement sa vie en y intégrant des parties complètement fictionnées et complètement loufoques, donc à l'image du personnage. D'ailleurs, on va en parler dans la présentation de Truman Show, parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans sa carrière. Il a souvent des personnages très, très, quasi schizophréniques et ambivalents, et c'est ce qu'il fait dans son autobiographie, qu'il a coécrit avec un journaliste, où il se raconte, et en même temps, il raconte des choses complètement folles, complètement inventées. Voilà, je vous le conseille. Je vais m'arrêter là pour Jim Carrey, sinon ça va être n'importe quoi du coup, t'as Je vous propose de regarder, pour vous remettre un peu dans le bain, de regarder le début du film, les 5 premières minutes du film. Ça va nous permettre d'aborder plusieurs sujets, et ça vous remet un peu dans l'ambiance aussi, de The Truman Show. Je pensais qu'elle partirait, mais non. Voilà. On voit dès les premières secondes du film, on a ce générique d'ouverture avec cette déclaration comme ça, face caméra, sans préambule, de ce personnage, Christophe, hein, qui n'est même pas nommé au début encore. The Truman Show commence. On ne connaît pas vraiment l'identité, le rôle des personnages. On est pris comme ça à brûle-pourpoint, on n'a pas vraiment de moyen de juger par nous-mêmes, au début du film en tout cas, de la véracité de ce qui nous est raconté. On ne sait pas très bien si ce sont les acteurs du film ou les acteurs du show télé qui nous parlent. On se demande un peu où est passé le film qu'on est venu voir à la base. Il faudra attendre un peu plus loin, évidemment, dans le film, quasiment jusqu'à la fin, pour qu'on cesse de confondre le programme télé et le film en lui-même. Alors le cinéma nous tend un piège, hein, en fait, en se donnant cette apparence de la télévision. Une télévision qui prétend n'être rien d'autre que la captation du réel, on nous le dit. Mais on sait très bien que cette réalité peut être contrefaite et qu'aujourd'hui, voilà, il suffit d'imiter l'aspect des méthodes de tournage, de l'interview, d'emprunter certains codes du genre pour brouiller les pistes. On le sait encore plus aujourd'hui, on y reviendra d'ailleurs, sur le mensonge des images. Donc dès le départ, The Truman Show invite en fait à s'interroger sur le réel et sur l'objectivité dès ses premières secondes. On le sait, Truman ne sait pas qu'il est filmé, et la réalité prétendument restituée est donc en fait totalement biaisée. Le monde de Truman est un simulacre, on le verra, et The Truman Show est un simulacre d'objectivité. Alors on voit la vie de Truman se passe dans cette ville de Seehaven qui semble tout droit sortie d'une carte postale des États-Unis des années 50. Elle a été inspirée par une véritable ville qui est en Floride, qui s'appelle Seaside, qui représente exactement cet archétype même de l'Amérique nostalgique aux piquets blancs et aux pelouses parfaitement tondues. La ville de Seaside, comme celle de Seehaven dans le film, correspond un peu à ce fantasme du rêve américain, par plusieurs choses, par la cohérence comme ça architecturale, par l'uniformité des matériaux, des couleurs, des types de construction, la propreté comme ça des rues, cette espèce et puis tous ces sourires et cette espèce de propreté et d'unité comme ça qui vient caractériser cette ville. Et puis dans le film, Seehaven, c'est aussi une île qui fait face à l'océan et qui est séparé du continent par une bande d'eau, hein, par une espèce de bras d'eau. C'est un paradis, mais un paradis en autarcie, qui est coupé du reste du monde. Plus tard, on va le voir, hein, par une série de flashbacks de scénettes, on verra que Truman est maintenu de force à l'intérieur de l'île par le biais de plusieurs manipulations mentales. Notamment un traumatisme d'enfant, qui sera fabriqué toute pièce, mais son père meurt noyé lors d'une sortie en mer avec lui. Donc Truman grandit dans la phobie de l'eau, du large, et il est paralysé dès qu'il approche les contours de l'île. Et puis pour qu'il ne pense pas, au voyage aérien, on l'a déjà vu, on le revoit dans d'autres scènes ensuite, mais on lui ressasse tous les jours à la radio et parmi dans des affichages publicitaires aussi, la dangerosité du voyage en avion et à quel point il ne faut pas s'éloigner de cette île. Et puis on a ce premier élément dans le film, dès le départ, qui intervient, cet élément étrange, avec ce spot qui tombe du ciel, et Truman qui reste totalement incrédule, on lui fait croire, qui apprendra par la suite qu'il s'agit d'un accident aérien, etc. Mais le doute est déjà semé, du coup, entre guillemets, doucement, mais semé dans la tête de Truman. Et on va apprendre un tout petit peu plus loin dans le film qu'en fait le doute était déjà semé depuis un long moment, puisque une figurante du programme a tenté il y a plusieurs années de divulguer la réalité de sa condition de prisonnier à Truman. L'équipe tente de brouiller les pistes et de faire oublier tout ça à Truman, mais en fait, au fond de lui, il reste profondément amoureux de cette jeune fille mystérieuse qui lui a lancé comme ça un signal d'alerte très étrange. Et il sera nourri par une obsession pour retrouver cette jeune femme. Ce sera le moteur principal de Truman qui tentera de savoir s'il se trame réellement dans son monde. Et petit à petit, tout au long du film, plein de petits incidents comme celui-là vont venir émailler le film et à chaque fois de plus en plus renforcer les doutes du personnage. Alors bien sûr, il est manipulé par ses proches, qui sont tous des comédiens. Il est manipulé dans son quotidien aussi, dans ses déplacements, et puis surtout mentalement, évidemment. Il est comme un enfant un peu prisonnier dans un corps d'adulte. On le voit dans le film avec le personnage de Meryl, sa femme, la façon dont elle lui parle, elle a un côté très maternel, elle lui donne pas mal d'ordres, et puis à chaque fois elle vient lui caresser la joue en lui donnant des petits ordres gentils, en lui demandant de venir, de tendre la pelouse, etc. Il y a un côté très maternel dans ce personnage, la figure de la mère aussi est présente, et il y a même une scène où ils se retrouvent tous les deux, ils se retrouvent coincés, entre guillemets, entre sa mère et sa femme, qui le materne énormément. Lui se retrouve dans cette position comme ça de l'enfant, l'enfant étouffé. Et puis il y a ces traumas créés à dessein pour le programme, qui le maintiennent aussi enfermé. Donc il y a une espèce d'emprise psychologique forte, et puis même des barrières physiques parfois. Mais Truman possède dans sa cave, au sous-sol de sa maison, un grand coffre, une malle, dans laquelle il garde toutes les reliques de son enfance, des photos de son père, il garde un vêtement qu'il a récupéré de cette jeune fille qu'il a connue brièvement, et puis il essaye de recréer l'autoportrait, en fait, comme il n'a pas de photo de cette femme, il essaye de ne pas l'oublier, donc il essaye de recréer un portrait de cette femme en prenant des coupures de journaux féminins, c'est pour ça qu'il l'achète au début du film. On va voir qu'en fait il découpe les yeux, les cheveux, les oreilles pour essayer de recréer, de ne pas oublier le visage de cette femme. Et cette fameuse cave, cette pièce dans laquelle il vient s'enfermer pour se remémorer un petit peu tout ce passé, elle n'est pas sans rappeler, on va tout de suite entrer dans les différentes analyses du film, mais elle n'est pas sans rappeler la fameuse allégorie de la caverne de Platon. J'ai choisi, pour que ce soit plus clair, et ça peut être une vidéo qui peut être intéressante pour vos élèves, une petite vidéo pédagogique qui explique l'allégorie de la caverne.
Qu'est-ce que l'allégorie de la caverne de Platon ? Le terme allégorie désigne un mode d'expression qui représente une idée abstraite par une image ou une métaphore. L'allégorie de la caverne de Platon met en scène des prisonniers enchaînés au fond d'une caverne, contemplant des ombres projetées sur le mur. Ne voyant que ces ombres, ils sont persuadés que la réalité se résume à celle-ci. Mais un prisonnier est libéré, sort de la caverne et découvre que la réalité est complètement différente. Revenant vers les autres prisonniers encore enchaînés, il tente de leur expliquer que ces ombres ne sont pas réelles, qu'elles sont illusoires, que le vrai est ailleurs. En utilisant cette allégorie, Platon veut illustrer quatre idées. La première, dans ce monde matériel et imparfait qui l'entoure, l'homme est comme prisonnier de la caverne, en proie à des illusions. La deuxième, ce monde matériel et sensible qui nous entoure n'est pas la réalité. le réel est dans ce que Platon appelle le monde des idées, qui est à la fois le modèle et la cause de notre monde sensible. Troisièmement, comme les prisonniers de la caverne, il faut sortir de l'illusion que nous offre le monde matériel et sensible. C'est la connaissance et la philosophie qui nous permettent d'échapper à cette illusion. Enfin, c'est le rôle du philosophe, de celui qui a entrepris cette démarche de connaissance, de retourner vers les autres hommes, de leur expliquer que la vraie réalité n'est pas dans le monde matériel et sensible, mais dans la connaissance du monde des idées. L'allégorie de la caverne doit donc bien être comprise dans le cadre de ce qu'on appelle la théorie des idées de Platon. C'est son idée philosophique majeure. En quelque sorte, Platon dédouble la réalité. D'un côté, notre monde sensible, changeant et matériel, qui n'existe que par participation au monde des idées. De l'autre, le monde des idées, éternel et immuable, modèle du monde sensible. L'homme y a accès grâce à la connaissance.
Voilà, pour les petites explications, je pense que c'est beaucoup plus facile d'écouter ça plutôt que moi qui vous raconte les rôles de la caverne. C'est plus comme ça, va plus vite. Et je pense que c'est une petite, pour les élèves, ça peut être un support pédagogique aussi. Même si ça aborde des notions un peu complexes, mais voilà, cette existence illusoire de Truman est semblable du coup à ce fameux mythe de Truman qui vit caché, qui est caché dans cette cave, qui ne connaît pas le monde réel, et Christophe est celui qui manipule les ombres, et la jeune femme qui l'a découverte, et c'est un peu celle qui vient essayer de lui expliquer qu'il y a un autre monde qui existe. Et c'est d'ailleurs quand Truman comprendra justement que son monde est faux, c'est depuis cette cave qu'il va prendre la fuite plus tard, qu'il parviendra à berner son monde. Donc voilà, le parallèle avec cette allégorie peut se faire assez aisément. Je reviens, je fais une petite digression, mais parce qu'il y a des thématiques communes. Je reviens sur Jim Carrey, parce qu'il y a des thématiques communes dans sa filmographie par rapport à ce film-là aussi. Donc c'est Jim Carrey qui a été choisi à la base. Le rôle avait été proposé à Tom Hanks à la base, et puis finalement Peter Weir décide de travailler avec Jim Carrey. Mais il a toujours incarné, c'est un habitué des rôles tourmentés, des personnages tourmentés, même dans ses comédies, des personnages fracturés et qu'on pousse à bout, qu'on pousse dans un dernier retranchement pour pouvoir se sortir de situation. Dans sa comédie, par exemple, The Mask, il y avait déjà cette question un peu de l'altérité, du vrai monde ou du désir et du fantasme. Dans Menteur-Menteur, où il incarne un avocat qui se retrouve du jour au lendemain dans l'incapacité de pouvoir mentir, il est aussi question en fait de l'importance de la vérité, du mensonge et de l'impact que ça a sur la vie des autres. Une autre comédie très potache, mais qui s'appelle Fou d'Irène. Il joue un policier harcelé par ses collègues et qui va devenir en fait totalement schizophrène et qui va tout faire pour retrouver son véritable moi. Donc il y a une espèce de film comme ça qui se crée. Et il y a cette idée chez Truman, ici, de ce quotidien qui se répète et au bout d'un moment qui va être au bord de l'explosion et qui demande qu'à se fissurer, qu'à sortir et qui ne demande qu'à devenir justement un autre être. Donc c'est dans ces moments-là que Jim Carrey vraiment donne des performances assez spectaculaires, capables à la fois de grimaces, de transformations physiques, et en même temps de jouer cette exaltation, comme un Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et justement, effectivement, je suis plutôt d'accord avec vous, c'est que le fait que justement, on va le voir, mais le personnage de Truman est dans ce mimétisme, en fait, de tout ce monde faux, de ce monde enjoué, et les fissures vont apparaître justement au bout d'un moment dans comment
justement quand il sera au monde de la réalité, il y a plus ces...
oui et tout ça. Et comme je dis, il y a ce personnage qui est
excessif, même quand il est dans ce bateau où on le voit en train de respirer poumon plein air, qui fait comme ça, c'est en fait
des sujets trop forts. Là, si vous me lancez sur un débat sur Jim Carrey, on va passer la journée.
J'ai vu que c'était passionné par Jim Carrey.
Non, mais effectivement, après, c'est une très bonne question à se poser. En tout cas, il y a ce côté où je comprends, je sais qu'il y a ça m'est arrivé encore tout récemment, à chaque fois qu'on aborde Jim Carrey, souvent, des fois, ça peut Il y a pas mal de gens qui sont un peu réfractaires, ou en tout cas qui ont du mal avec ce côté effectivement physique qu'il a toujours développé et tout à fait accepté. Mais justement, je trouve que c'est intéressant de l'utiliser aussi dans ce Truman Show pour ce côté, comme je le disais, un petit peu comme. En fait, si vous voyez par exemple, je ne sais pas si vous avez vu Food Irene, c'est Farfarini qui avait réalisé Dumb and Dumber aussi. C'est un film complètement assez trash, hein, assez potache, etc. Mais il y a la même notion de ce personnage qui est en fait au bout d'un moment au bord d'implosion et qui physiquement aussi fait des grimaces pas possibles, enfin, ça devient, c'est un ballon de baudruche, quoi. Et c'est un petit peu en fait, je trouve ce qui arrive à Truman, et c'est intéressant de le faire jouer justement par un acteur capable de jouer ça, je trouve. En tout cas, c'est ma vision de la chose. Il y a une autre récurrence qui vient souvent aussi dans les films de Jim Carrey, c'est la télévision. Là, on est clairement dans The Truman Show là-dessus. Dans The Mask, on a un personnage qui est obsédé par les cartoons et la télévision, et ça deviendra qui se répercuteront sur le monde réel. Dans Disjoncté, son personnage a totalement été littéralement élevé par la télévision. Il parle qu'à travers des clips de films et de séries. Et c'est un individu totalement façonné par ce média. Dans Man on the Moon, dans le rôle d'Andy Kaufman, qui visionne des émissions de télé à longueur de journée, qui va lui-même ensuite passer à la télé, il va finir par parasiter pardon, la télé de l'intérieur à travers ses frasques. Donc il y a une espèce de fil qu'on peut tirer dans sa carrière entre les différents personnages qu'il a joués et certaines thématiques. Quelle heure est-il ? Je surveille quand même, il me reste un quart d'heure. Un très court extrait du making-of du film sur les cadres, on ne va pas en parler, le cadrage. Vous avez déjà vu dès le départ des cadrages assez étranges. Peter Weir et un de ses producteurs nous parlent de la manière dont ils ont abordé l'image. Effectivement, le film va jouer tout au long de l'histoire, entre les caméras effectivement cachées, et on va en fait au bout d'un moment, même quand on regarde le film, on peut s'amuser à essayer de deviner où sont cachées les caméras. Puis parfois, on passe sur une caméra qui est vraiment celle de l'histoire et pas celle celle de la fiction et pas celle du show télé. Il y a en fait l'omniprésence, et du coup, il en parle déjà en parlant du cadre. Il y a l'omniprésence des formes sphériques du globe, du cercle, tout au long du film, qui se cache un peu partout, à la fois dans des éléments du décor, mais pas que, dans la mise en scène aussi. Puisque la première fois que Truman va tenter de justement briser le cercle, de briser ce rond-rond, puisque Truman est déjà dans cette espèce de manège sans fin, hein, on le voit, ce quotidien qui se répète avec toujours les mêmes répliques, hein, il est un peu pris dans ce quotidien qui tourne en rond. Quand il va décider à un moment de sortir de ce quotidien, déjà il va le faire la première fois via le carrousel qui lui permet d'entrer dans son bureau, on l'a vu là tout à l'heure. Mais là, à un moment donné, il va décider de stopper ce carrousel, de sortir, de stopper cette ronde, justement. Il va prendre sa voiture, à un moment donné, c'est un peu plus loin, mais il va décider de prendre sa voiture, d'essayer de s'échapper avec sa voiture, et il va se mettre à rouler sur un rond-point. On aura à un moment un plan zénital, même au-dessus du rond-point, où on voit cette voiture qui tourne à toute vitesse et qui essaye de temps en temps de sortir. Et à chaque fois qu'il essaye de sortir de ce rond-point, de cette valse, enfin de cette valse, de ce, pardon, j'ai oublié le terme, mais de ce manège, voilà. À chaque fois, il sera bloqué par des bouchons, il sera bloqué par des tas de choses. Et à chaque fois, il revient en arrière et il se retrouve réemporté à chaque fois dans ce rond. Et puis les objets du quotidien, là, on voit quelques exemples. Vous voyez la sphère du miroir, cet aspect dont parlait Peter Weir aussi. De l'iris de la caméra, hein, qui souvent vient former comme ça cette forme arrondie au niveau de l'image, parce que la caméra est cachée un peu partout. Si on regarde bien dans les décors, on voit plein de petits globes, notamment le voisin avec sa poubelle qui a une espèce de globe dessus qui cache une caméra aussi. Et puis, Il y a aussi tout simplement cette ville fictive de Sea Haven dans laquelle il vit. On va le voir un peu plus tard dans une autre scène qu'on passera justement juste après la pause déjeuner, mais que la ville de Sea Haven est en fait abritée par un dôme géant visible de l'espace, on nous dit dans le film. Donc on a toujours cette idée du globe, du dôme, dans laquelle Truman est enfermé. Il est un peu comme un poisson rouge dans un bocal, il est pris au piège et s'il va ici. Pour sortir de ce bocal, il va devoir justement risquer sa vie et sortir de l'eau, justement. Et puis aussi, toujours dans tout ça, il y a cette lune aussi qui va revenir. La lune dans laquelle se trouve la régie, en fait, de l'équipe de l'émission télé. Ils ont cette petite maquette de la ville, pareil, toujours cette forme de dôme. Et puis cette lune dans laquelle s'abrite Christophe. Donc voilà, cette forme comme ça récurrente est assez amusante au final quand on cherche un petit peu des indices un peu partout dans le film. Et puis aussi, le globe, ça peut aussi être une métaphore de l'œil aussi. Hein. Ce fameux globe, c'est l'œil du spectateur, l'œil de celui qui regarde Truman, à la fois Christophe, à la fois les spectateurs du film hein, aussi. Les spectateurs qui sont à la fois un peu témoins et complices de ce qui se passe. Donc pour cette forme-là. Mis à part ce qui est assez intéressant, alors en fait, je vois un peu le timing, parce que je vois qu'il y a 5 minutes, mais l'extrait que j'ai préparé est plus long. Donc peut-être que. Je prends encore un peu de temps, mais je vous passerai l'extrait juste après. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va passer dans le film quasiment une heure, je crois que c'est quasiment à une heure pile du film, on va passer une heure avec Truman à se demander ce qui se passe. On n'aura quasiment aucun moyen d'accéder aux coulisses, à part quand Truman va justement s'apercevoir des détails qui clochent, mais en tout cas, pendant la première partie du film, pendant la première heure, on est vraiment avec Truman, on est dans sa vision et petit à petit on découvre les subterfuges avec lui. Et c'est qu'au bout d'une heure d'émission qu'on va finir par découvrir la régie, donc les coulisses, et de manière, on regardera la scène tout à l'heure, mais je trouve d'une manière assez terrible, où il est en train de se livrer à son meilleur ami, et une scène très poignante où ils ont un dialogue sur l'amitié, et sur le fait, son meilleur ami lui dit qu'il est comme son frère, et on finit par s'apercevoir qu'en fait toute la beauté de ce dialogue est en fait dictée dans une oreillette par le réalisateur et une espèce comme ça de côté à la fois très, très ironique et très, très cynique aussi de ce passage. Et on va entrer dans les coulisses. Et là, au bout d'un moment, on va finir par jouer sur une espèce de montage alterné entre guillemets entre la vision de Truman, la vision de Christophe, de l'équipe. Et on va être un peu pris. On en reparlera, mais un peu pris entre deux eaux, et on va être mélangé entre les spectateurs du film, les spectateurs du show. On ne sait plus très bien dans quelle position on se retrouve. Et qui ouvre la piste à pas mal d'interprétations sur le sens du film. On va le voir. Je pense des interprétations d'ailleurs qui peuvent faire débat, mais c'est ce qui est intéressant justement. Premièrement, on a fait, bien évidemment cette vision du monde quasi, et cette vision de Christophe quasi christique. Et d'ailleurs, si on fait bien attention aux deux prénoms de nos protagonistes, Christophe et Truman, il suffit de décomposer le prénom Christophe, Christ, off en anglais, le Christ, on ne voit pas, qui est off, qui n'est pas là. Et Truman, en deux mots, l'homme vrai, on est déjà dans un rapport qui construit cet univers, hein, qui est clairement, enfin le rapport de Christophe et Truman, qui est vraiment cette figure divine. À un moment, il est appelé par Marlowe le grand Manitou, sans le citer évidemment, mais il est ce chef d'orchestre aussi, on le voit, quand il met en scène les retrouvailles avec le père, qui balance la musique, on le voit comme ça avec les bras, il choisit les lumières, les caméras, il a vraiment comme ça cette figure de démiurge qui a la main sur tout. Et visiblement, il a du talent, parce que quand on voit les réactions des spectateurs émus aux larmes, visiblement, il sait ce qu'il fait. Ce rôle de démiurge, il est parfaitement revendiqué par Peter Weir, qui dit dans une interview, je cite, « Christophe est Zeus, au sens où il essaie de contrôler les mortels. D'après mes lectures, si je me souviens bien, la seule chose que Zeus ne pouvait pas faire était d'interférer avec le destin. Il pouvait accomplir bien des actions divines, y compris contrôler la météo, mais il ne pouvait pas, comme le fait Christophe, commencer à interférer avec les décisions prises par sa créature, qui est de partir. Christophe franchit la ligne à la fin et il est puni. » Donc il y a très clairement cette intention de ce réalisateur tout puissant. Et d'ailleurs, on peut même, on le verra rapidement à la fin, mais on peut même se poser la question de la mise en abîme du réalisateur qui parle du réalisateur. Il y a aussi des choses à creuser là-dedans. Puis pour qu'il est réalisateur, puisqu'on parle de réalisateur, c'est l'occasion de parler de mise en scène. Dès le départ, on l'a vu, hein, il y a une certaine confusion, une certaine ambiguïté qui vient jouer hein, sur The Truman Show, qui désigne à la fois l'émission et le film. On l'entend dans l'extrait, Christophe explique avoir environ 5000 caméras à sa disposition pour capturer le moindre mouvement de Truman. Et effectivement, donc, comme on disait tout à l'heure, tout au long du film, on peut s'amuser à les repérer, à comprendre où elles sont placées. C'est une position qui est assez rare hein, au cinéma, puisqu'on est poussé à s'interroger sur les conditions matérielles de production des images. Quelque chose d'assez à la fois ludique et assez inédit. Donc on a vu tout à l'heure l'usage des grands angles, de l'iris, de cette position. Le spectateur est des fois caché avec la caméra, il est dans la position quasiment de la caméra, dissimulé dans les objets. Et puis on explique aussi le fait que le programme ne pouvant être interrompu, les placements de produits sont là pour assurer le financement. Ce qui, dans le film, donne lieu à des séquences, des moments assez savoureux, quand les personnages sont en train de réciter leur dialogue et ils s'arrêtent pour Marlon, à un moment, boit sa canette de bière et regarde l'objectif en disant « ça, c'est de la bière », en montrant la canette. Et ils vont tous faire ça plusieurs fois dans le film. Cette récurrence comme ça de la publicité qui apparaît, on va en parler, mais ça peut faire aussi, on peut tisser des liens avec ce qui se passe de nos jours. Mais ici, il y a tout ce côté en plus qui a été volontairement accentué par le réalisateur, par aussi le directeur de la photo, sur cet aspect très années 50-60, qui était un peu l'âge d'or aussi de tout ça. Et l'actrice notamment qui joue Meryl, qui joue la femme, explique qu'elle s'est inspirée dans ses poses, en fait, dans sa gestuelle. Elle s'est inspirée des magazines d'époque en regardant les femmes dans les magazines des années 50, les poses qu'elles prenaient, etc. Il y a vraiment toute cette esthétique qui est beaucoup travaillée là-dedans. Pour qu'il y ait mise en scène aussi, pour qu'il y ait réalisateur, il faut qu'il y ait spectateur, évidemment. Il faut un public. Et tout au long du film, Peter Weir donc choisit de nous montrer, on l'a vu, comme un contre-champ, les réactions des téléspectateurs. Donc on a l'ordre de vieille dame dans le canapé, les gardiens de parking, l'homme dans son bain, etc. Et même ce fameux bar au Vendée qui revient plusieurs fois. Et on voit qu'ils entretiennent tous un rapport très fusionnel avec le programme, hein, ils ont même tous du merchandising à l'effigie de Truman. Et quand on voit la vivacité des réactions surtout, on sent ce lien très fort. Et au final, le spectateur, nous, le spectateur du film de The Truman Show, se retrouve dans cette espèce de mise en abîme, puisqu'on est en train de regarder ceux qui sont en train de regarder. Sauf que, contrairement au show télé, au spectateur du show télé, ici, le spectateur du film a une vision un petit peu de recul, et on a presque une vision même assez sombre et assez cynique. De ces spectateurs, qu'on peut aussi mettre en parallèle à des voyeurs, entre guillemets, mais en même temps, nous, on se retrouve aussi dans cette position, l'espèce d'ambiguïté qui est entretenue, la capacité ou pas d'être à distance de ce show et de cette mascarade, au final. Et puis les spectateurs, on a vu, visionnent en fait le programme. Il y a un côté, c'est là où je veux en venir, c'est que ils visionnent le programme un peu, ils le prennent tellement à cœur, c'est un petit peu comme le reflet de leur propre vie. On sent qu'il y a un tel attachement, qui vivent un peu par procuration la vie rêvée d'un homme ordinaire, et eux passent au final leur vie devant quoi ? Devant des écrans, à ne rien faire et à regarder la vie rêvée des autres. Ça vous rappelle peut-être des choses qu'on entend aujourd'hui. Alors, évidemment, le film a été quasiment, j'allais dire, précurseur, parce qu'il sort en 98, et en 98, c'est aussi l'année des premières diffusions, des premières émissions de télé-réalité aux États-Unis. Donc ça sort pile au même moment. Donc ça annonce évidemment tout l'avènement de la télé-réalité qui aura lieu pendant des années, y compris en France et un peu partout dans le monde. Mais je trouve qu'il y a même aussi, on peut tirer le fil sur des choses plus récentes, sur notamment les réseaux sociaux. Ça amène beaucoup de pistes là-dessus. Tout le monde est un peu enfermé comme ça dans sa subjectivité et on est tous face à ces écrans. À cet égard, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, aurait affirmé à ses employés ne pas croire à la vie privée. On se rappelle au début du film, il y a une réplique de Meryl, de la femme qui dit il n'y a pas de différence entre la vie privée et la vie publique. Ici, Christophe, on peut le voir aussi comme une figure, un précurseur des Mark Zuckerberg, des Steve Jobs ou des géants des GAFA, un peu. Il a beau se donner comme ça les atours de la morale, sa position en réalité est commerciale. On l'entend ici dans l'interview, il parle des profits qui sont générés. Donc sous couvert comme ça de cette volonté d'offrir à Truman un monde plus beau, on sait que la réalité derrière est plus mercantile. Le rapport avec les GAFA, avec Meta qui nous propose ces casques de réalité virtuelle absolument incroyables, etc., peut être quand même fait, puisque vous ne pas oublier que ici, Truman, c'est l'esclave au final un peu de tout ça. C'est c'est aussi lui aussi un produit involontaire de tout ça. C'est à son insu, mais il est un peu le produit de tout ça. Quand on regarde les réseaux sociaux de plus près aujourd'hui, c'est gratuit et qui est le produit, c'est nous aussi. Donc il y a ce parallèle qu'on peut faire aussi, qui n'est pas inintéressant à creuser. Et puis aussi, on indique, d'ailleurs, c'est une petite réplique moi, qui me fait rire, mais on indique aussi que Christophe prend grand soin à faire très attention à sa vie privée, contrairement à ce qu'il fait avec Truman. Et c'est aussi le cas quand on voit des gens des GAFA, qui sont les premiers en fait à avoir très 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 soucieux de leur vie privée. Donc voilà, il devance un peu tout ça et je trouve que c'est une vraie piste à explorer, et notamment pour les élèves, et le rapport comme ça, cette distanciation avec les réseaux sociaux, avec le fait aussi de regarder effectivement les gens à travers un écran, des choses comme Instagram, etc., à vivre la vie des autres par procuration, c'est aussi une chose intéressante. Et puis le film soulève des questions un peu plus profondes aussi. D'abord la question de l'utopie. L'utopie, c'est un concept donc philosophique et littéraire. Son étymologie vient du grec ancien, utopos, ou qui signifie non nulle part, et topos qui signifie lieu, donc littéralement un lieu qui n'existe pas. Mais le mot joue avec la proximité avec le mot utopos, si je le prononce comme il faut, qui signifie bon endroit, donc ajoutant une certaine ambiguïté à cette notion entre son caractère parfait et irréel. C'est un concept qui a été forgé par l'écrivain et philosophe Thomas More en 1516 dans son ouvrage Utopia. J'aime bien la petite remarque de Peter Weir d'ailleurs sur le fait qu'effectivement c'est un récit d'évasion, mais c'est une fuite hors du paradis. Et ici effectivement l'univers de Truman peut sembler plaisant, et on ne peut pas vraiment le dissocier du dispositif médiatique dans lequel il s'insère. C'est ça aussi le vrai challenge, entre guillemets, c'est qu'en manipulant absolument tout, Christophe considère offrir à Truman une vie protégée, libérée de toute angoisse. Il dit à la fin, dans mon monde, tu n'as rien à craindre, il lui dira vers la fin. Mais c'est quand même une belle manipulation quand on connaît l'emprise qu'il a quand même sur Truman et tous les traumatismes psychiques qu'il lui a fait subir. Donc au final, l'organisation de ce monde, on peut dire quand même, n'a rien de démocratique, mais bien de tyrannique plutôt. Truman, il apparaît en fait comme une figure un peu de l'aliénation totale, et son monde, lui, c'est le totalitarisme. Pardon, l'après-midi, c'est plus difficile. Même s'il y a une ambiguïté, j'ai eu le débat hier soir avec des spectateurs, parce que certains spectateurs me disaient, oui, mais dans le film, c'est vrai qu'on le voit à plusieurs moments, on voit Christophe venir pendant que Truman est filmé en train de dormir, et Christophe vient caresser son visage. Il y a un rapport aussi avec la paternité, avec le rapport enfant-parent, qui n'est pas inintéressant aussi, que je n'ai pas spécialement creusé moi aujourd'hui, mais on peut se poser aussi des questions, parce qu'il y a cette espèce de maltraitance du père, et en même temps l'attachement qu'il a pour son enfant, cet enfant qui va vouloir s'échapper. Il y a aussi toute une parabole qu'on peut faire là-dessus. Et puis, en parlant de totalitarisme, j'ai oublié une chose, c'est aussi la séquence où Truman va finir par réussir à s'échapper et à échapper au regard des caméras. Et à ce moment-là, vraiment, l'univers de Seehaven bascule complètement, puisque la fausse lune va se transformer en projecteur, comme le projecteur d'une prison va se mettre à balayer les lieux pour essayer de le retrouver. Des alarmes se mettent à retentir. Et puis surtout, on entend cette espèce de recherche, tous les figurants se rejoignent pour essayer de chercher Truman. Ils font des fouilles au son du bruit des bottes et des chiens qui aboient. Donc il y a cette espèce de chasse à l'homme qui se crée. Et il n'y a plus aucune empathie pour Truman qui se crée. Tous les faux semblants, tous les faux sourires se fissurent. Et cette violence atteint son pic lorsque Christophe déchaîne volontairement une tempête sur Truman qui finit. Donc je vérifie juste au niveau timing, on va être un peu juste. Mais je peux peut-être vous passer quand même rapidement l'extrait de la fin, puisque Truman finit finalement par aller au-dessus, passer par-dessus sa phobie de l'eau et va voler une petite embarcation, un petit bateau. Il va décider de prendre la mer, de prendre le large pour s'évader. Et Christophe, bon, on va regarder quand même rapidement l'extrait, on va voir la violence avec laquelle Christophe répond et comment Truman réussit quand même au final à s'échapper. Donc voilà, c'est la fin du spectacle, hein. Le comédien principal quitte la scène, il tire sa révérence, hein, on voit, il fait son salut. Le réalisateur lui a terminé son travail malgré lui, hein. il est viré, on va dire. Les lumières s'éteignent, rideau, on rend l'antenne et les spectateurs applaudissent. Et il sort de la salle aussi, éventuellement. Nous, on sort de la salle. Donc en franchissant le seuil du studio, hein, Truman accepte sa condition d'être humain, de se confronter à l'incertitude et à la peur, qui vient de braver aussi les éléments. La porte est ce trou noir, hein, ce voyage vers l'inconnu. Et si Truman, lui, s'échappe du paradis, Christophe, lui, connaît la déchéance. Alors on peut poser, je trouve que ça peut être peut-être même intéressant d'avoir le débat avec les élèves, de se poser la question de cette happy end, puisque Christophe pose la question dans un extrait qu'on a vu, où il dit que le vrai monde, le monde de l'extérieur, c'est le monde, c'est un monde monstrueux, et le vrai monde, c'est le mien, c'est celui qu'il devrait être. Et ça pose beaucoup de questions, qui peut être peut-être intéressant de poser aux élèves qu'est-ce qu'ils pensent effectivement de cette réflexion-là sur le fait de est-ce que c'est vraiment cette fameuse utopie dont on a parlé et la parallèle avec le totalitarisme aussi, toutes les questions qu'on peut poser autour de ça. Et puis le film renvoie le spectateur à des questions encore plus philosophiques, on va dire, c'est notamment la question du libre arbitre. Est-ce qu'on pense vraiment par nous-mêmes, l'être humain peut-il vraiment choisir, a-t-il vraiment différentes options sans être contraint par des forces préexistantes, est-on libre de nos choix, un débat assez complexe à la fois sur les aspects éthiques psychologique, scientifique, voire même théologique. C'est une notion, le libre arbitre, on le sait, qui désigne la capacité d'un individu à faire des choix de manière autonome, hein, sans être déterminé par des facteurs externes ou internes. Donc c'est la possibilité de pouvoir agir selon sa propre volonté, indépendamment de toute contrainte ou d'influence prédéterminée. Donc la notion de libre arbitre peut poser pas mal de questions. Je vais accélérer parce que je suis un peu en retard, mais j'ai trouvé une petite vidéo. Ah oui, il y a aussi une autre parabole qui peut être faite, c'est la parabole autour des libertés individuelles. J'ai un slider que j'ai trouvé, en fait je l'ai trouvé hier, mais je suis allé sur le site, sur la Convention européenne des droits de l'homme, pour voir justement les différents droits, les différentes libertés individuelles. On ne les lit pas très très bien ici, c'est littéralement une capture d'écran de ce qu'on trouve sur le site de la Convention européenne des droits de l'homme, avec le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, le droit du respect à la vie privée, à la liberté d'expression, à la liberté de penser, à la liberté de conscience, bon, droit de vote notamment, la convention interdit la peine de mort, la torture, l'esclavage. On peut faire plein de parallèles avec le film, c'est pas inintéressant aussi, sur ces questions de privation de liberté aussi. Et sur le libre arbitre, j'ai trouvé une courte vidéo, ça dure 2 minutes, mais sur YouTube, mais qui est plutôt bien faite à base d'extraits de films, et notamment d'extraits de films, on voit The Truman Show à un moment donné, sur la question du libre arbitre. Je la trouve assez bien faite et assez drôle. La vidéo s'appelle « Le libre arbitre n'existe pas ». C'est assez drôle la façon dont c'était fait. Et pas inintéressant. Alors, la force de ce film, pour passer outre l'aspect purement télé-réalité, etc., c'est justement aussi de... cette annonce un petit peu des différents réseaux sociaux, je trouve, et à cette ère un peu de surveillance accrue des plateformes, des nouvelles technologies, et aussi la façon dont circulent les informations. Hein, maintenant, c'est plus que la télé-réalité en direct 24/24, c'est aussi les informations. On peut faire évidemment le parallèle avec l'œuvre de George Orwell, 1984, mais ici, la puissance politique unique, cruel, qui voit tout, peut être remplacé aussi par la masse, au final, la masse anonyme, tous ces spectateurs qui sont les témoins de tout. D'où le fait que j'ai barré Big Brother, c'est pas Big Brother is watching you, c'est Big Brother is you, quand on est aussi derrière nos écrans. Et la représentation filmique, au final, de Peter Weir, met très bien, je trouve, en avant. En tout cas dans l'analyse qu'on peut en faire, cette espèce de totalitarisme ludique, une expression que j'ai trouvée aussi sur Internet. Et tout ça via le prisme aussi du cinéma. Et en utilisant les mêmes codes et les outils de tout ça, des caméras, des techniciens, il vient aussi dynamiter un peu tout ce procédé. Alors qu'en est-il du coup, on peut ouvrir des questions, du coup, qu'en est-il un petit peu de l'individu face à ce nouvel âge médiatique mondialisé? L'échappée de Truman peut être un peu quelque chose dont chaque individu peut ou doit accomplir pour lui-même. C'est le romancier français Philippe Muret écrivait « Il n'y a pas de lucidité sans séparation ». Donc ça pose aussi de vraies questions. Et puis la question de regarder le réel aussi en face. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde le réel? Je me suis un peu pressé, mais on a un petit peu de temps. On va faire une courte analyse de séquence. Pareil, la même proposée que proposée par le CNC et que vous avez dans les plaquettes destinées à vos élèves. Donc on va regarder rapidement la séquence. On la décortique un petit peu ensemble. Ensuite, on verra les pistes pédagogiques. Donc la première fois où Truman essaye vraiment de briser justement ce fameux cercle dont on parlait tout à l'heure. Je passe juste ce plan-là parce qu'il est un peu plus anecdotique, mais on va passer celui-ci. Mais on a un Truman, on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu plusieurs fois,
Après, il y a la scène deux fois dans le film où on a le point de vue du kiosquier, on a la caméra qui est à l'intérieur du kiosque et qui vient comme ça enfermer Truman dans le cadre, dans ce rond rond. Et là, cette fois-ci, quand il décide de s'échapper, ben, on a un autre point de vue. On a le point de vue extérieur, du coup. Alors, c'est pas tout à fait le point de vue de Truman, mais en tout cas, le point de vue de ce monde. Et on voit, évidemment, on le voit dans le jeu de Truman, de Jim Carrey, mais on voit que quelque chose ne tourne pas rond. Et il tourne déjà un petit peu sur lui-même. Il est déjà... Il se met à l'écart. Et on voit d'ailleurs le regard du cosquier. Et on sent bien que la machine se grippe et que quelque chose est en train de se cramer. On voit les regards inquiets. Et Truman, qu'on vient voir ici, qu'on vient... Cette fois-ci, on est vraiment focalisé. Alors là, pour le coup, toute la séquence aussi entre parfois des plans des caméras qui sont cachées, puis des plans de cinéma, on va dire. On est vraiment dans la fiction, on est hors du procédé de la télé-réalité. Ici, on vient retrouver Truman avec cet arrière-plan, vous voyez, complètement flou, pour aussi... avoir cette idée que Truman est perdu, il ne sait plus vraiment où il est, on se concentre sur lui, il est un petit peu enfermé aussi dans ce cadre, comme il sent ce processus d'enfermement dans lequel il est. Et puis il avance, alors on sent bien que, même si ce n'est pas encore totalement le cas, mais on a toute cette machine bien huilée, tous ces figurants, tous ces comédiens qui n'arrêtent pas, et lui qui avance tout doucement, la caméra se focalise sur lui. On est toujours d'un point de vue dominant, on est en plongée. Donc pour l'instant, on est toujours un peu dans la peau, pardon, du démiurge qui regarde sa créature. Et cette fameuse, ce dont je vous parlais tout à l'heure, je vais laisser un peu son extrait. Voilà. Cette fameuse porte, donc toujours pareil, ce cercle, ce manège qu'il décide de venir briser, on le voit aussi par son regard, hop. Et il s'échappe de cette routine, justement. Et là, on passe sur, pour le coup, une caméra du show, puisqu'on sent bien que, et là on sort complètement du procédé de la fiction, la caméra cherche à recadrer son personnage, elle ne comprend pas ce qui se passe puisqu'elle n'était pas prête à le suivre comme ça. Donc on a le cadreur, délibérément, qui bouge, qui va zoomer, donc processus purement vidéo, là on est vraiment... À la place du cadreur, de la caméra, qui vient chercher le protagoniste qui s'enfuit. Et Truman qui est seul, en fait, on voit à son rythme, là il a perdu son rythme, il est beaucoup plus lent que les autres, et il est perdu dans cette foule, même s'il a pour l'instant toujours le même costume que les autres, on sent bien que c'est le grain de sable dans la machine. Et on a déjà, plusieurs fois dans la séquence, on a déjà... Ça nous annonce aussi le fait que Truman va essayer de se cacher, va essayer de trouver des subterfuges pour s'échapper. Il se cache derrière ce poteau, évidemment, qui pour l'instant ne le protège pas vraiment. On est toujours un peu du point de vue de l'émission, hein, qui cherche à le cadrer comme il faut. Il essaye de se baisser, et on essaye toujours de le garder dans le cadre. Mais on sent bien que, en tout cas, il est déjà en train d'essayer d'échapper à la surveillance. Et ici, là on le voit très très bien, alors on retrouve encore cette forme plus ou moins, voilà, plus ou moins ovale, mais enfin en tout cas toujours cette fameuse figure de l'œil qui ne fait que réapparaître. Et pour l'instant, on voit bien que Truman est toujours cerné, il est dans ce cadre, il est toujours enfermé pour l'instant, il est toujours prisonnier et toujours surveillé. On comprend que c'est aussi une caméra cachée, hein, qui le suit. Donc il n'est pas encore libéré de ses chaînes, mais en tout cas, il y a cette idée d'enfermement qui est toujours là. Et puis il va se poser. Ici aussi, on va avoir, c'est juste après, là on a pareil une caméra mobile, une caméra qui est portée, qui est visiblement cachée quelque part, mais ce qu'on appelle une caméra épaule, qui tremble, qui vient essayer de retrouver ce personnage dans la foule. Et puis ce zoom, pareil, comme tout à l'heure, ce zoom optique qui n'a absolument rien de naturel, qu'on fait même d'ailleurs assez peu dans le cinéma, ça s'est fait à une époque, mais aujourd'hui dans le cinéma de la fiction, le zoom optique Donc c'est pas un travelling, mais c'est bien une caméra, l'optique de la caméra qui vient zoomer quelque chose. Évidemment, on entend même le bruitage, hein, le son est important. Ce fameux zoom très mécanique, hein, qui montre toujours cette surveillance. Et puis c'est ces gens toujours tout à fait idylliques qui sont. Il y a ces deux personnages, il y a eux et puis il y a les deux messieurs voilà, qui parlent espagnol, qui sont vraiment en regard. Au regard de Truman, ils sont tous ces gens heureux et en contre-champ, Truman qui lui est au contraire en plein doute. On voit son visage déconfit, puis il entend parler espagnol. C'est un petit peu comme si il entend une autre langue. Il est perdu. Il ne distingue plus son monde en fait. Il ne sait plus vraiment où il se trouve. Ça vient renforcer un petit peu cette idée de paranoïa. Et puis évidemment, le regard de ce comédien, de ce figurant. Et là, on se rapproche très très furtivement, mais on se rapproche de Truman pour nous signifier, d'un petit mouvement de tête. Mais effectivement, on vient se mettre près de lui, on vient se mettre à sa place, et on vient accentuer le fait que, ça y est, Truman a compris que quelque chose, le processus continue, et là, vraiment, il a compris que ça ne tournait pas rond, toujours. Alors, on pense toujours à cette... même si là, c'est accidentel, mais il essaye, voilà. Maintenant, il essaye de prendre possession de son monde et il essaye de s'en affranchir, ça y est. Il ouvre les mains un petit peu comme Moïse qui essaye d'ouvrir la mer. Il essaye comme ça de s'échapper. Et on a ce plan zénital qu'on retrouve du coup dans le film. Il y a un plan dans le film au niveau du rond-point zénital qui lui ressemble. Et ici aussi, d'ailleurs, Truman, toujours sur la même figure. Mais il fait une révolution sur lui-même, il tourne pour essayer de, au final, briser le cercle. Puis on montre cet écrasement aussi, hein, par le point de vue, cette caméra zénitale aussi vient un peu écraser notre personnage. Et on se rapproche de lui, et ici, il va carrément, comme dans la suite du film, on a ce personnage qui est cerné, qui essaye d'échapper en fait au cadre même de la caméra. Il essaye presque d'échapper au film, en soi. Il va rentrer dans ce bâtiment. Donc son arrivée n'était pas prévue. Et face à ces deux comédiens qui restent complètement stoïques, on a en regard son agitation à lui, hein, qui vient faire monter la pression. Et ces deux comédiens qui, eux, au contraire, ne peuvent plus rester stoïques. Et qui vont vouloir l'empêcher de continuer. Et bon, voilà, le premier contact avec le monde de derrière, hein, le monde d'après, entre guillemets, j'allais dire. Et Truman se retrouve. Quasiment, ici, quand il est pris par ces deux hommes, il est à la fois une espèce de figure de l'enfant qu'on vient prendre, essayer de soulever de l'enfant qui fait une crise et qu'on essaye de l'éloigner. Il est aussi un peu ce pantin complètement désarticulé qu'on vient ici essayer de prendre possession de ce pantin, essayer de le ramener dans le droit chemin. Et il se débat. Là, on a aussi un peu le potentiel comique de Jim Carrey qui apparaît. Là, il est expulsé, hein, cette fois-ci. Alors, il essaye de s'enfuir, mais en même temps, il est expulsé, puis il est renvoyé dans son monde, dans ce quotidien, dans cette rue qu'il connaît si bien. Et là, on a presque un petit élément qui pourrait être quasiment celui d'un... qui est un peu burlesque, qui pourrait s'apparenter à... Ça fait penser à... Pareil, comme on disait tout à l'heure, ça fait penser à un gag à la Chaplin, mais il essaye carrément de déstabiliser son monde. On en tapait, ça n'a aucune incidence, mais il vient montrer en tout cas son mécontentement. Et puis, Truman qui est perdu parmi la foule, toujours pareil, cette foule qui continue à être purement mécanique, hein, on a quasiment une machine face à lui, et lui au contraire ne suit pas de ligne, hein, ils sont quasiment tous sur des lignes, lui vient au contraire apporter cette espèce de briser cette linéarité. On sent qu'il est seul dans cet espace et en même temps on sent cette oppression aussi avec la mallette et puis ce gros plan aussi. aussi sur lui. Voilà. C'est une séquence que vous pouvez du coup analyser. On va vite la revoir, revoir les pistes qu'on peut aborder. Hop. Et j'en ai encore sur cet extrait. Quelques films rapidement références et rebonds. En fait, un film qui partage exactement la même thématique que The Truman Show, pas du tout la même identité visuelle, j'allais dire, mais exactement les mêmes thématiques, c'est Matrix, qui sort juste l'année suivante, et qui au final, Matrix par exactement la même chose, c'est-à-dire le libre-arbitre aussi, la différence entre la réalité, le vrai monde et le faux. Donc c'est clairement un film, j'allais dire, une empreinte. La même année, c'est marrant parce que tous les films sont rapprochés un peu sur la même année, mais ils ont un peu les mêmes thématiques. Il y a aussi Pleasantville, bon, qui est un film un peu plus mineur, mais qui est pas inintéressant aussi, sur deux ados qui se retrouvent propulsés dans une émission, un feuilleton des années 50, en noir et blanc. Sauf qu'en fait, ils vont essayer de faire prendre conscience à ces personnages de fiction qu'ils sont dans une... qu'ils évoluent dans une série et que ce n'est pas le vrai monde, entre guillemets. Ils vont essayer de les convaincre de sortir de la télé, en fait. Ça sort la même année, et quasiment la même année, un film de Ron Howard, 99, en direct sur EdTV. C'est légèrement différent, mais on est à peu près sur la même thématique aussi. Là, cette fois-ci, c'est un homme qui accepte d'être filmé par une équipe de télévision 24h sur 24. Là, il a bien voulu, cette fois-ci, sauf qu'il va s'apercevoir, effectivement, que contre une grosse somme d'argent, c'était pas forcément une bonne idée et que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'il pensait. Je me suis trompé sur le dernier, j'ai oublié de changer le titre. Le dernier, c'est Dans la peau de John Malkovich de Spike Jones. Il faudrait que je modifie ça. Pareil sur la perte d'identité, un peu l'illusion, le voyeurisme aussi, beaucoup, hein, avec des gens qui viennent se mettre à la place de John Malkovich pour voir à travers ses yeux. Voilà, et puis les pistes pédagogiques, alors ça je vous le laisserai dans le PDF, mais ça je l'ai trouvé sur internet, un petit croquis que je trouve assez bien fait, sur les questions à se poser justement entre le monde de Truman, le show télé et le film en lui-même, et toutes les correspondances qu'on peut faire entre ces différents personnages, et effectivement entre le réalisateur du film et Christophe. On peut s'amuser à venir faire des allers-retours. C'est trois niveaux de représentation qui peut être intéressant aussi à analyser avec les élèves. Et puis au niveau des pistes pédagogiques, au niveau de l'objectif, les caméras, on en a parlé, hein, relever donc, pourquoi pas avec eux les différents regards caméra, s'interroger sur leur fonction, le regard aussi du spectateur face au film et celui du spectateur face au show. Le fait de la problématique de la surveillance permanente aussi, hein, des caméras omniprésentes, à quel type de régime politique ça peut faire éventuellement penser. Et puis les similitudes entre The Truman Show, on a vu les quelques parallèles qu'on peut aussi étendre sur les réseaux sociaux aujourd'hui et la portée des écrans. Une question sur les valeurs aussi, les valeurs morales, celles du mensonge, mentir au nom du bonheur. Ça peut être aussi une question intéressante, et celle de l'utopie, la place de l'utopie dans tout ça, et la notion du libre-arbitre, même si je sais que ça, on entre un peu dans des débats assez complexes, mais on peut aussi aborder cette notion de libre-arbitre, puisque on peut leur demander par exemple si Truman est guidé par son libre-arbitre, ou s'il est influencé, et quelles sont les stratégies pour mettre en place, pour dissuader Truman de partir. Et sur la petite analyse de séquence qu'on vient de faire, les quelques questions, c'est les mêmes qui sont posées sur les documents du CNC, hein, à peu près, enfin, à quelque chose près, j'ai fait quelques modifs, mais ça se rejoint. En quoi la posture de Truman suggère un changement dans sa routine matinale, on l'a vu. Quels éléments attirent son attention? Comment cette rupture se traduit au niveau du cadre, au niveau de la mise en scène? Les réactions aussi que ça provoque, et puis à quel moment le point de vue du spectateur coïncide avec celui de Truman ou pas? Et qu'est-ce que ça révèle aussi de Seven, voilà. Et puis les fameux actes imprévisibles, qu'est-ce que ça nous permet aussi de découvrir, voilà.